Bonjour et bienvenue dans cette émission du 6 décembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à toutes les personnes qui font l'effort de soutenir cette chaîne, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Nous allons revenir aujourd'hui sur cette nouvelle tout sauf anodine qui n'a évidemment pas été relayée de ce côté-ci de l'Atlantique, mais qui est que l'État du Texas vient d'ouvrir une procédure judiciaire contre Pfizer, sous la plume de son procureur général Ken Paxton. Alors évidemment, le Texas, c'est un État un peu dur à cuire, qui ne s'en laisse pas compter. Il faut rappeler que c'est dans cet État qu'un juge de Houston avait exigé la publication de l'intégralité des documents de Pfizer, 500 000 pages, relatives à ses essais cliniques autour du vaccin, et pas juste les articles frauduleux publiés dans le New England Journal of Medicine et qui disaient que le vaccin était quasiment parfait, efficace, très sûr, et dont on sait aujourd'hui que ces articles étaient très très lourdement falsifiés. Alors, je vous rappelle que la FDA notamment, donc l'organisme, l'agence gouvernementale de surveillance, avait elle aussi plaidé auprès du tribunal pour que ces documents soient protégés pendant 75 ans. Et c'est comme si l'administration fiscale défendait le fait qu'un contribuable n'ait pas à donner de documents à l'appui de sa déclaration d'impôt. On était vraiment dans ce genre de situation stupéfiante. Et heureusement, le juge n'a pas fléchi et a donc exigé que l'entier soit publié dans un délai d'un an, ce qui nous a permis d'avoir la confirmation de l'étendue et de la gravité des fraudes. Alors, sur tous ces processus et tous ces éléments de réalité que j'évoque ici, bien sûr, je vous renvoie à mon livre qui vient de sortir, Autopsie d'un désastre, le quatrième chapitre qui est le plus épais des cinq qui constituent les grands volets du livre, est consacré aux injections géniques expérimentales et toutes les manipulations de Pfizer, la réalité des effets indésirables, les coûts-bénéfices, et ce qu'il faut en penser, ainsi que l'extorsion de consentement. Donc vous trouverez vraiment énormément de matière à ce sujet s'il vous intéresse. Et bien sûr, rappelez le livre de Christine Coton, Tous vaccinés, tous protégés, qui a été publié aux éditions Guy Trédaniel. En ce qui concerne la plainte de l'État du Texas, de quoi s'agit-il ? Je partage avec vous un petit résumé réalisé par l'excellente chaîne indépendante américaine Epoch Time. Hier, le procureur général du Texas a intenté une vaste action en justice contre Pfizer. Pfizer avait lancé son vaccin Covid en novembre 2020 en affirmant qu'il était efficace à 95% contre l'infection par le Covid-19. En se basant sur cette statistique, Pfizer a ensuite lancé une campagne qui, selon le procureur, a incité les Américains à se faire vacciner au nom de la protection de leurs amis et de leurs familles contre le virus. Ken Paxton a déclaré, je cite, que l'affirmation généralisée de la pharmaceutique selon laquelle son vaccin était efficace à 95% était extrêmement trompeuse. Cette mesure représente un calcul de la soi-disant réduction du risque relatif pour les personnes vaccinées. Or, les publications de la FDA indiquent que la réduction relative du risque est une statistique trompeuse qui influence indûment le choix du consommateur. Donc nous sommes ici évidemment au cœur du sujet. Et effectivement, Pfizer, qui accessoirement a falsifié ses essais cliniques, mais a fait croire depuis le début un ensemble de choses qui étaient parfaitement fausses, et l'on pouvait savoir déjà à l'époque que c'était faux, puisqu'un certain nombre d'experts, dont votre serviteur, l'ont tout de suite repéré, je veux dire, dès lors qu'on connaît un peu la matière, mais malheureusement, l'entier des systèmes sociétaux, médecine, politique, médias, était juste inféodé à ce que disait l'autorité, même si jamais il est de notoriété publique qu'elle est parfaitement corrompue, tout cela figure également dans mon livre. Cela dit, je vous propose de donner la parole à Ken Paxton et d'écouter comment lui-même se représente la procédure qu'il a intentée. Dans les années 80, je crois, le gouvernement fédéral a adopté une loi qui protégeait les entreprises pharmaceutiques lorsqu'elles fournissaient des vaccins. Il n'y avait pas de responsabilité, la protection était totale. Toutefois, la législation des États n'offre pas les mêmes protections à ces compagnies. Nous avons une loi sur les pratiques commerciales trompeuses et c'est en vertu de cette loi que nous les poursuivons, arguant qu'ils n'ont pas dit la vérité aux consommateurs texans. Il y a donc des dommages et intérêts parce qu'ils n'ont pas dit la vérité sur l'efficacité ou les effets secondaires potentiels du vaccin. Quelque chose que vous avez dit m'a vraiment frappé, relève la journaliste. Vous avez dit que j'avais remarqué que lorsqu'ils poussaient le vaccin très fort et qu'ils disaient « nous sommes en sécurité si nous le recevons tous », or, si nous sommes en sécurité, nous ne devrions pas nous soucier de ce que font les autres. C'est en fait le premier signal d'alarme que vous avez eu. Mais le vrai problème, c'est bien qu'ils ont dit que le vaccin était efficace à 95%. Or, les personnes vaccinées sont tombées malades tout de suite. Oui, oui, nous pensons que ce chiffre de 95% n'est pas vrai. Ce n'est pas un chiffre exact, ce n'est pas un chiffre fiable, et ils le savaient, c'est ça notre argument. Ils savaient que ce chiffre n'était pas fiable, et ils ont donc trompé les consommateurs sur l'efficacité du vaccin. Les gens prennent donc des décisions très importantes en matière de santé, ils acceptent un vaccin qui n'a pas encore été testé et dont nous ne connaissons pas encore les effets à long terme. Ils connaissaient certains des effets secondaires potentiels, mais surtout savaient que le vaccin n'était pas efficace à 95%. Les gens ont cru que Pfizer disait la vérité. Bien sûr, l'administration Biden est intervenue et a commencé à menacer les gens de perdre leur emploi. D'autres villes et États ont fait la même chose, obligeant les gens à se faire vacciner, sur la base de fausses informations. C'est un vrai problème, car cela a des conséquences à long terme pour les consommateurs du Texas. Quel pourrait être le résultat, demande la journaliste. En ce qui nous concerne, pour chaque infraction, c'est 10 000 dollars par infraction. Ce montant peut s'élever rapidement, car nous avons 30 millions de personnes. Il sera donc intéressant de voir ce qui se passera. Mais je pense que nous avons une chance légitime d'obtenir au moins plus d'informations sur ce qu'ils savaient réellement à l'époque et sur ce qu'ils ont dit aux consommateurs à ce moment-là. Et s'ils ont menti, il y a des dommages et intérêts à la clé. L'un des aspects positifs de ce litige est qu'il va permettre de révéler des informations que le public ne connaissait pas, et nous allons veiller à ce que ces informations soient divulguées. Donc au minimum, que nous gagnions ou que nous perdions, je pense que nous allons gagner. Nous aurons d'autres procès, mais au moins, le public pourra se dire « Attendez une minute, je serai un peu plus hésitant à faire confiance à l'administration Biden la prochaine fois ou à toute autre entité gouvernementale qui me dit ce que je dois faire ou que je vais perdre mon emploi si je ne soumets pas à la pression qu'il m'inflige. » Alors le fait est, de nouveau, il faut avoir une compétence à lire la science et à comprendre la réalité des essais cliniques et des rapports de pharmacovigilance, mais que, vraiment, on n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la pharmacopée et des vaccinations d'un produit aussi toxique que celui qui nous a été présenté en continu comme étant sûr et efficace. Le ministre français de la Santé vient de récidiver à ce sujet en disant une ânerie monumentale. Donnons plutôt la parole au docteur Peter McCullough, dont je rappelle qu'il est le cardiologue ayant le plus publié au monde, donc un immense scientifique, et qui, au micro de Xavier Azalbert, revient sur ce que Pfizer savait déjà à quel moment, et notamment les signaux extrêmement alarmants qui remontaient entre novembre et décembre 2020, puis début 2021, et que les agences de santé, les gouvernements et la société pharmaceutique, bien sûr, ont totalement occulté, camouflé, allant même jusqu'à censurer tous ceux qui essayaient de le révéler. Americans that have died due to the vaccine, the people who report it to the system believe the vaccine is implicated in the death. Sadly, 1,150 die on the same day they've taken the shot, sometimes in the vaccine center. This has never happened for a biological product before. Should have been pulled off the market within just a few weeks of it being released. We knew that Pfizer had concealed 1,223 deaths in their 90-day post-marketing data worldwide. They didn't release that to the public, and the FDA wanted to block that in the courts. Finally, it was released. Now, a paper by Michaels and colleagues show that Pfizer knew about 38 additional deaths in their trials program from the time of the data cutoff in mid-November to the VRBPAC meeting, the NIH, the FDA meeting in December 10th, 2020. And those 38 deaths were largely occurred in Pfizer. So at the time of the meeting, there was a 3- to 4-fold excess risk of cardiovascular death. Learning this now, we understand that the Pfizer vaccine never should have been approved. There should have been a moratorium. Moderna never should have come out, neither Janssen or AstraZeneca. Alors, petit clin d'œil, un des amis du docteur McCullough ont afficher son portrait à New York sur la façade d'un bâtiment pour lui rendre hommage. James Thorpe, qui est un autre très grand médecin, gynécologue, obstétricien, qui a fait des recherches très importantes sur l'impact de l'injection génique sur la fertilité, la grossesse et la naissance. Voilà, le résume ainsi. Le docteur McCullough et sa magnifique épouse sont honorés à New York. Il est le cardiologue, je vous l'ai dit, qui a publié le plus grand nombre d'articles au monde dans son domaine. Le docteur McCullough est le médecin le plus qualifié au monde pour sortir de cette catastrophe colossale, sinistre, fasciste et corrompue de l'histoire de la médecine, voire de l'histoire du monde. Pour ses efforts incessants en faveur de la vérité, McCullough a été récompensé par un licenciement, des menaces, des persécutions et des sanctions de la part de The American Board of Internal Medicine, un organisme profondément corrompu. Et évidemment, comme chacun d'entre nous, le docteur McCullough en a payé le prix fort. Je reviens aussi en passant sur cette audition organisée dans le cadre du Parlement britannique où des immenses experts comme le docteur Pierre Corry, le docteur Malone, Stephen Kirsch qui est un ingénieur du MIT, David Martin qui est un grand spécialiste des brevets ont pu aller exposer la réalité de l'arnaque mondiale épouvantable dans laquelle nous sommes. Rappelez qu'il y a eu récemment en Roumanie un sommet international auquel ont participé aussi toute une brochette d'experts absolument remarquables et diversifiés, dont quelques Français, parmi lesquels Louis Fouché, Vincent Pavant et Emmanuel Darles, mais des gens du monde entier. On reconnaît par exemple le docteur Joseph Tritot, qui est un des grands spécialistes des armes biologiques. Et donc voilà, la vérité fait son chemin et encore une fois, le dossier de Pfizer est tellement accablant qu'il serait surprenant que ça ne débouche pas tôt ou tard sur quelque chose, mais en nous rappelant, et je cède la parole à Tucker Carlson, le journaliste américain, à quel point c'est difficile précisément à la mesure de l'énormité de la chose. Et finalement, ça prend des personnalités extraordinairement construites et saines pour pouvoir reconnaître des torts dans quelque chose d'une telle envergure. Et malheureusement, l'envergure plus la médiocrité, la lâcheté de ceux qui sont aux commandes à différents endroits rend cette perspective malgré tout extrêmement difficile. Écoutons ce que Carlson en dit. Vous avez déjà remarqué que plus la tragédie est importante, plus il est difficile pour les responsables de s'excuser. Si j'emboutis votre voiture et que je froisse votre pare-choc, je serais tout heureux de sortir et de dire « je suis désolé, je n'arrive pas à croire que je vous ai fait ça ». Mais si je devais envahir l'Irak sous de faux prétextes, tuer 1 million de personnes et dépenser 1 000 milliards de dollars, je ne dirais rien. Je n'admettrais jamais que c'était une mauvaise idée, je ne pourrais pas. Cela m'implique trop profondément. Il en va de même si je devais enfermer vos enfants pendant 1 an, détruire leur cerveau et les empêcher de recevoir une éducation, ou si je devais vous forcer à prendre un vaccin qui n'a pas fonctionné et qui aurait très bien pu vous blesser. Je ne pourrais jamais admettre que j'ai fait cela. Je ne pourrais pas parce que si je l'admettais, je devrais en subir les conséquences. Demain, je vous présenterai mon livre et surtout pourquoi je l'ai écrit et pourquoi le bilan qu'il propose est tellement important. En fait, ce sont des commissions d'enquête indépendantes dans tous nos différents pays qui auraient dû faire ce travail. Mais tout comme j'ai été un des premiers à sortir l'information utile en direction du grand public, parce que mes collègues et les systèmes dédiés, notamment les agences de santé et la presse, ne le faisaient pas du tout, eh bien voilà, 3 ans après, j'ai repris mon bâton de pèlerin et ma plume pour réaliser cet inventaire global de la crise. Donc je vous en dirai quelques mots. Et puis vendredi, je vous proposerai une exploration extrêmement importante qui est la compréhension de pourquoi nous vivons une époque particulièrement dangereuse, mais notamment parce que les gens qui n'arrivent pas à se rendre compte de ce qu'ils ont fait, de à quoi ils ont participé et de la responsabilité qui est la leur, sont en train de devenir extrêmement dangereux dans leur fonctionnement psychique, dans un acharnement où ils doivent absolument projeter à l'extérieur d'eux le délire dans lequel ils sont. Et donc, je vous proposerai, pour terminer cette semaine, un décryptage de cette dynamique psychologique individuelle et collective. À demain. Merci.